Tetzé, c'est une parasha énorme du point de vue du nombre de mitzvot. Il y a plus de 60 mitzvot dans cette parasha. Et donc, c'est extrêmement riche. On ne peut pas évidemment s'arrêter sur toute chose. Il y a des choses qui sont dans cette paracha, des choses un peu spéciales, et puis des choses très connues. La chose la plus connue dans cette paracha, c'est la toute dernière chose qui est écrite dans cette paracha, chose absolument fondamentale, parce que la dernière chose qui est écrite, c'est le problème d'Amalek. Se termine donc à la fin. Zachor et Asher Asalcha Amalek, Baderech, le Setrem et Mitzrayim, c'est ce qu'on lit le Shabbat, qui est appelé Shabbat Zachor, parce qu'on lit justement ce morceau-là. C'est la Kriyat Torah qui est d'Oraïta. On a une mitzvah de lire la Torah, mais la mitzvah de lire la Torah, elle n'est pas admis la Torah. Ce n'est pas la Torah qui dit il faut que vous me lisiez. Par contre, la Torah, elle dit qu'il faut lire Zachor. Enfin, on apprend mis de Raïta qu'une fois par an, il faut qu'on lise Zachor. Et donc, on a décidé de le lire en plus de la lecture standard, qu'on va lire ce Shabbat. On l'a déjà lu autour de Pourim. Avant Pourim, on lit déjà cette paracha de Zachor en préparation dans les quatre parchiotes qu'on lit en préparation de Pessah. Donc ici, on nous dit de se souvenir, on a déjà parlé à la fin de Parchat Béchalach, de l'histoire d'Amalek. Amalek, nous a attaqué quand nous sommes sortis de Mitzrayim. C'est une attaque gratuite, en fait. Bon, ça veut dire... Il n'avait absolument aucune raison particulière de nous attaquer. Il n'y avait rien à gagner, il n'y avait pas de territoire à prendre. Il a attaqué semble-t-il, par principe, en fait. Parce que quand la Torah, elle raconte la sortie d'Égypte, telle qu'elle le raconte, par exemple, dans la Shira, on a l'impression que pour les Bnei Israël, c'était presque une promenade de santé dans la mesure où tous les peuples ont été tétanisés par la sortie d'Égypte. Parce que tous les miracles qu'Hachem a fait au plein d'Israël, donc personne n'a osé bouger. Et donc, ça, semble-t-il, ça a été quelque chose d'insupportable pour Amalek. Alors, il y a peut-être quelques petites choses à dire à ce sujet-là, des grandes choses, mais je vais dire des petites choses. Amalek, c'est pas n'importe qui. Amalek, c'est pas vraiment un étranger, si on peut parler comme ça. Vous vous souvenez, quand Yaakov Avinu a quitté la maison paternelle, donc, il est en chemin là pour aller chez Laban. Il est rattrapé au milieu, dans son chemin, il est rattrapé par son neveu, par le fils aîné d'Ésaü, qui le rattrape sur l'ordre de son père. Et quand il arrive vers Yaakov, Yaakov lui dit, qu'est-ce que tu fais là, toi? Eliphaz, c'est son nom, il dit à Yaakov, il dit, je suis venu te tuer sur l'ordre de mon père. Alors Yaakov lui dit pas, mais tu sais pas, vilain garçon, que c'est interdit de tuer. Yaakov, il discute avec lui. Pourquoi il discute avec lui? Enfin, pourquoi est-ce qu'effectivement il y a possibilité de discuter avec lui? C'est que Ésaü a éduqué son fils. quelle éducation il a donné à son fils. Il a donné à son fils une éducation très religieuse. Il a envoyé son fils étudier la Torah chez Yaakov, chez tonton Yaakov. Donc Yaakov est à la fois l'oncle d'Eliphaz, et il est aussi son rebbe, il est aussi son maître. Alors, on a une discussion entre un maître et un élève. Et Yaakov dit à Eliphaz, OK, ton père t'a dit de me tuer. Bon, t'es pas du tout obligé de me tuer avec un grand couteau, etc. Il y a plusieurs formes de mort. Une forme de mort, c'est une mort économique. C'est-à-dire, on considère que quelqu'un qui est complètement pauvre, complètement démuni, il est chashuv kemet. Il est mort. Il est considéré comme mort. Il est économiquement mort, c'est ça, c'est clair. Il y a des gens qui sont socialement morts. Par exemple, celui qui est frappé par la tzaraat, la dit de la shonara, il est frappé par cette manifestation sur la peau, etc., qu'on appelle en français la lèpre, mais qui n'a rien à voir avec la maladie lèpre, évidemment. Mais il est chassé de tous les camps pendant un certain temps. Donc, personne ne peut le parler, donc il est socialement mort. On dit que d'une certaine manière, quelqu'un qui est sanguinaire, quelqu'un qui ne voit pas, il est mort à une certaine qualité de vie, disons, je sais pas. Et donc, Yaakov dit à Eliphaz, tu peux me tuer économiquement. Alors, tu me dépouilles de tout ce que j'ai et tu pourras dire à ton père que tu m'as tué. Et c'est ce qui se fait, ce que fait Eliphaz. Et donc, ça, c'est l'explication du fait que Yaakov, quand il arrive chez Laban, il n'a rien du tout, ce que Laban ne peut pas comprendre. Il n'a vraiment rien, il est vraiment quasiment. Il est tout nu, quoi, en fait. Il n'a rien, absolument rien. Que sa force de travail. Et on ne voit pas que Ésav ait fait des reproches à son fils en lui disant. Je voulais que tu le tues véritablement, que tu sois vraiment physiquement mort. Et ça, il a certainement compris l'argument et il était d'accord, probablement. Donc, ça, c'est le. Donc, alors maintenant, ça, c'est Eliphaz. Et on nous parle dans la Torah, je vous rappelle, on parle d'une princesse. On la connaît pas vraiment, cette princesse, on ne sait pas grand-chose d'elle. On connaît le nom de son frère, donc on ne connaît pas grand-chose non plus d'ailleurs. Et cette femme-là, elle a essayé de toutes ses forces d'entrer dans la famille d'Abraham. Et c'est très étrange, elle a été refusée par tout le monde. Tout le monde, ça veut dire ni Abraham, ni Jacob. Et quand elle, en désespoir de cause, si on veut parler comme ça, elle a voulu entrer dans la famille par la branche Ésav. Ésav non plus l'a pas prise. Alors elle a essayé d'entrer peut-être avec le fils d'Ésav, Éliphaz. Non, on l'a pas acceptée comme épouse. Ils l'ont finalement acceptée comme concubine d'Éliphaz. Cette bonne femme, qui a donc montré une volonté de faire pour entrer dans le clan d'Israël, on ne sait rien d'elle. On ne sait pas pourquoi enfin, moi je ne sais pas, je n'ai jamais rien vu de ce sujet-là. On ne sait pas du tout pourquoi les Avot, pourquoi Avraham Avinu qui accepte tout le monde, pourquoi il l'accepte pas, elle. Qu'est-ce qu'elle a fait de si spécial? Cette Timna. Alors elle devient la concubine d'Éliphaz et ils ont ensemble des enfants. En tout cas, ils ont un enfant qui s'appelle Amalek. Donc, Amalek, c'est le petit-fils d'Ésav. Mais si vous voulez, il est à la fois le petit-fils d'Ésav Il a aussi probablement là, toute la charge de l'énergie de sa mère, même si on ne sait pas exactement quelle était cette énergie, mais en tout cas, ça fait d'Amalek la pointe avancée des Esav. Il n'est pas un petit-fils d'Esav, un peu comme le grand-père, non, pas du tout. Il est plus agressif, beaucoup plus agressif que le grand-père. Mais en réalité, il est un espèce de petit cousin, quoi. Donc, ce n'est pas vraiment un étranger. Et la question, c'est de quoi il se nourrit, si vous voulez. De quoi il se nourrit dans cette haine qu'il va développer contre les Bnei Israël, contre ses petits cousins. D'une certaine manière, ce que j'ai entendu, c'est que, en fait, il se nourrit de la négativité d'Israël. Pourquoi on n'en viendra jamais à bout, hein, à la fin des temps? C'est parce que, en fait, chaque fois que le clan Israël se conduit mal, il renforce, il nourrit Amalek. Donc, en réalité, Amalek, c'est une partie de nous-mêmes qui nous attaque. Et alors, ici, on présente un Amalek un peu comme un peuple extérieur, même quand on va parler d'Aman Amalek, on sait comme quelqu'un qui a l'air d'être extérieur, mais en réalité, c'est comme s'il y avait à l'intérieur du peuple d'Israël le côté négatif qui agresse, qui fait que quelque part, on n'admet pas, il n'est pas admis. L'existence du clan Israël est remise en cause à cause de sa négativité. Si, ça veut dire que le clan Israël, qui a un statut très à part, ben, il n'a pas le droit de vivre quasiment si se développe cette négativité. Et donc Amalek est toujours là, en fait. Il prendra des visages différents, probablement. Et le clan Israël va plus ou moins bien résister, tenir le coup, pas, peu, etc., par rapport à Amalek. Alors maintenant, nous, on est dans la Torah, et le texte est de la Torah, on va le lire de telle sorte que ce texte nous dise quelque chose du pourquoi Amalek. De quelle négativité? C'est quoi la négativité d'Israël? C'est qu'il mange des huîtres, c'est ça le problème? Il mange du porc, ils disent de la chonara. C'est quoi la négativité en question là qui fait qui nourrit vraiment Amalek? Le paragraphe qui est juste avant. Le paragraphe concernant Amalek. Si vous avez un fromage, vous pouvez regarder. Le Passouk dit, juste 4-5 psoukim avant le Zahor, il dit, tu n'auras pas, je traduis donc, Loïe lecha bechisra even va'aven, dola uktana, tu n'auras pas dans ta bourse un poids et un poids, un grand et un petit. Tu n'auras pas dans ta maison une mesure et une mesure, une grande et une petite. C'est un poids parfait et juste que tu auras. Une mesure parfaite et juste que tu auras, afin que tes jours se prolongent sur la terre qu'Hachem, ton Dieu, te donne. Car c'est une abomination d'Hachem, ton Dieu, quiconque fait ces choses, quiconque commet un acte corrompu. Et alors, ce texte-là, il est un peu, bon, il nécessite qu'on réfléchisse. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que tu n'as pas le droit d'avoir des faux poids. Si c'est nous dire qu'on n'a pas le droit d'avoir des faux poids et de les utiliser. Si quelqu'un utilise des faux poids, il devient un voleur. J'ai pas besoin d'un passouk si spécial pour me dire que c'est interdit d'être un voleur. Il y a des psoukim bien avant qui interdisent de voler. Donc, on ne parle pas ici de quelqu'un qui utilise les faux pois. C'est quelqu'un qui a les faux pois chez lui. Imaginez, il a, ce que la Torah vient dire ici, c'est tu as un pois, c'est marqué 1 kilo. Et puis bon, il s'est usé, il a, je sais pas, il était dans, c'est une matière qui a été rongée par le sel ou je sais pas quoi. Bref, ce pois-là, en vérité, il devrait être marqué 900 grammes. Alors maintenant, il a ce pois-là, et quand un client vient acheter un kilo de pommes, il lui dit, voilà, on va peser le kilo de pommes en face de ce pois, mais je te dis tout de suite, le pois, il est marqué 1 kilo, mais c'est pas vrai, bon, je n'ai pas d'autre pois, j'ai seulement 900 grammes, et évidemment que je te ferai payer 900 grammes seulement. Ça, c'est interdit. Parce qu'on n'a pas besoin de dire que s'il ne lui dit pas qu'il y a 900 grammes et qu'il est en train de le voler, ben, je n'ai pas besoin de psukim ici pour me dire encore une fois qu'on n'a pas le droit de voler. Mais on n'a pas le droit, tu n'auras pas dans ta bourse, tu n'as pas le droit de les avoir. Qu'est-ce que c'est? Le problème, c'est le problème du faux. Tu as du faux. C'est le problème du faux, c'est le faux. C'est le faux, mais il y a un problème avec le faux. Et comme c'est le paragraphe qui est juste avant, alors on dit que cette histoire des faux pois, c'est de cela qu'il s'agit avec Amalek. C'est-à-dire pourquoi, qu'est-ce qui fait que Amalek vient? Ben c'est justement le fait d'avoir des faux pois. Donc, encore une fois, ce n'est pas le vol, parce que ça, c'est trivial. Mais tu n'as pas le droit d'avoir des faux pois. Tu n'as pas le droit de vivre dans un environnement du faux. Que ce soit des faux tableaux, que ce soit des fausses informations. On est dans le, et on sait, aujourd'hui, on vit vraiment dans le monde du faux. Fake news et tout ce que vous voulez, c'est le monde du faux. Et aujourd'hui, le faux, on peut le faire de façon tellement parfaite. Il y a des photocopieuses, des machines qui peuvent reproduire à l'identique. Pratiquement, c'est indiscernable. Il faut probablement des études de. On arrive à faire des faux, une perfection. Alors, voilà, si on entre dans ce faux-là, alors, en quelque sorte, on suscite Amalek. Le faux, c'est tous les domaines du faux, c'est-à-dire celui qui trompe, même trompe les gens parce que il se donne pour quelqu'un d'honnête, ou bien il trompe les gens parce qu'il se donne pour quelqu'un de respectueux des mitzvot, etc. Il ne l'est pas, etc. On est dans le. Voilà. Ça amène, ça se traduit par un mal. Ça, c'est cette négativité d'Israël. La négativité d'Israël, c'est quand Israël ne joue pas le jeu qu'il doit jouer et il se fait comme s'il le jouait. Il vit dans le monde du faux. Semble-t-il, donc, ça a l'air d'être ultimement le grand problème. Alors on peut se demander, mais quand Amalek a attaqué les Bnei Israël, est-ce que les Bnei Israël, ils étaient dans le domaine, ils étaient dans le faux? Alors, je sais pas comment il faut répondre, mais d'après ce que la Torah nous dit, il y avait beaucoup de faux dans les Bnei Israël. Il y a des Chazal qui disent que les Bnei Israël, ils ont trompé Hachem au Sinaï. Il y a des Chazal qui disent que les Bnei Israël ont dit on va faire, etc., mais qu'en vérité, ils n'étaient pas prêts du tout à faire. On voit bien. l'adhésion d'Israël au moment de la sortie d'Égypte. On a l'impression, voilà, ils sont en train de se torturer, mais on voit tout de suite que, en fait, ils n'étaient pas vraiment d'accord. Ils sont restés au Avodah Zara. Quand ils passent la mer, les anges disent, mais ils sont idolâtres. Ceux-là sont idolâtres, ceux-là sont idolâtres, il n'y a rien de changé. Donc, le problème, et ça, par exemple, le Gaon de Vilna explique que Amalek, aujourd'hui, il y a de l'Amalek dans le clan d'Israël. Justement, les gens qui donnent le, enfin, qui font semblant, etc., dans le clan d'Israël, c'est Amalek. Le Gaon dit encore un peu plus, il dit que dans les temps pré-messianiques, en fait, le clan d'Israël sera gouverné par des menteurs, par des faussaires, par des gens qui sont Amalek. C'est assez terrible, quoi. Voilà, ça veut dire il va y avoir à l'intérieur du clan d'Israël des gens qui vont réussir à se faire passer pour, qui en fait ne le sont pas. Ça veut dire qu'il y aura de l'Amalek jusqu'au bout, jusqu'à la fin, jusqu'à ce que, effectivement, le Mashiach vienne, ça veut dire jusqu'à ce que Hachem fasse en sorte qu'on ne puisse plus raconter l'histoire, que le faux, en fait, devienne visiblement faux. Le faux, c'est le domaine du mensonge. C'est vivre dans le mensonge. Donc ça, c'est difficile parce que la tentation de se mentir à soi-même, de mentir à d'autres, etc., elle est toujours là. On a toujours une tentation de se faire passer pour, hein, dans la société, etc. Donc voilà un point très très important qui est dit dans cette paracha de Kitetsé, qui est donc tout à la fin de Kitetsé. Au tout début de la paracha, on a quelque chose de presque incompréhensible, quelque chose que vous connaissez, c'est l'histoire de la belle captive, comme on dit, Yifat Tohar, quelque chose de très étrange. On parle de quelqu'un, on parle de clan Israël qui est parti en guerre. Et le clan d'Israël a mérité qu'Hachem lui donne la victoire. Et la victoire, ils ont fait des prisonniers. Alors, je dis tout de suite pour que ce soit bien clair, je rappelle seulement ce qu'on a vu très récemment aussi. Que quand les pays d'Israël allaient faire la guerre, alors il y avait un Cohen, enfin, le Cohen Gadol de service, en quelque sorte, qui est en charge Je ne sais pas si j'ai perdu d'ailleurs. parce que c'est marqué une progress, mais je ne vois pas la personne sur l'écran.
On vous suit encore sur le Zoom. Hein.
Vous êtes là.
Oui, oui, on est bien là.
Oui.
Mais comment ça se fait que je ne vois personne? Bon, ben, tant pis, on va parler comme ça. Et... Oui. Oui, mais je veux pas, je sais pas du tout où ça va, où ça enregistre, je sais pas. Bon, on va... C'est encore là?
Oui, oui, on est encore là.
Bon, ça va, alors je...
On est là.
Moi, je vois rien, mais on va continuer quand même.
Ok.
On vous entend.
C'est écrit que ça enregistre en principe.
Pardon?
Enfin, c'est écrit que ça enregistre. Il y a l'enregistrement qui a l'air activé sur, en haut.
Oui, bon, c'est bon. D'accord, on va voir. Ouais. Oui, il y a une question?
Comment est-ce qu'on fait par rapport au fond, parce qu'il y a quand même on a une intériorité, on a une extériorité, il y a quand même une.
Il y a une question de savoir qui est posée, comment est-ce qu'on sait, on entend bien ce que vous avez dit, donc la question c'est comment est-ce qu'on sait qu'on est dans le faux, c'est ça, en gros. On veut dire a priori. C'est vrai que on peut se tromper. Ça, c'est probablement pas grave si on se trompe. C'est si on décide de donner la même valeur à ce qui est faux et ce qui est vrai. Vous avez une exposition de tableau et vous avez à côté un original et puis là une copie et là aussi une autre copie, etc. Et tout est mis sur le même plan. C'est ce genre de faux qui est insupportable. Parce que, exactement comme dans les informations, on vous donne à la fois une véritable une information qui est vraie et à côté une information qui est fausse, et vous n'avez effectivement souvent pas le moyen de discerner. Ce qui est archi grave, c'est quand en vérité tu sais que c'est faux, mais tu lui donnes la même valeur que de quelque chose qui est vrai. Ça, c'est vraiment la grande faute. Maintenant, le fait, il faut essayer d'empêcher le faux d'arriver sur la scène. C'est ce qu'on peut, c'est comme ça qu'on peut essayer de, si le faux est vraiment bien fait, on va mettre du temps. Peut-être, il faut peut-être écouter ce que disent les uns, les autres. Il faut une enquête pour savoir si les choses sont vraies ou est-ce qu'elles sont fausses. Et donc, a priori, on doit essayer d'appliquer est-ce que ça se conforme aux lois de la Torah, etc. Ou est-ce que ça ne l'est pas? Donc, quelque part, on va essayer d'appliquer les règles de la Torah pour essayer d'y voir clair. Mais effectivement, c'est pas absolu. On peut, il faut prendre le maximum de précautions et de, oui, de précautions. Pour ne pas tomber dans le piège du faux, en fait. Voilà, on dit, là, c'est clair, quand quelqu'un, il a un faux poids, non plus, t'as pas le droit de le garder. Ça veut dire même en disant, mais je l'utilise pas, en faisant croire que c'est du vrai. Non, on veut pas. Même le faux que tu annonces comme étant faux pour que les gens, pour pas tromper les gens, mais la Torah le permet pas. Effectivement, pour savoir si on a si on est dans le vrai ou dans le faux, ça peut être très très difficile de discerner, c'est vrai. Alors, ce qu'il y a dans le début de la paracha, alors, c'est justement, tu es en train de dire qu'il y a quelqu'un, Cohen de service en quelque sorte, qui va s'adresser aux soldats et il va leur dire, voilà, si quelqu'un a des raisons d'avoir peur, si on peut parler comme ça, parce qu'il sait qu'il a fait des fautes sur lesquelles il n'a pas fait tchouva, etc., qui rentre chez lui, qui ne communique pas sa peur à tout le monde. Et puis, pour être bien sûr que les gens puissent s'investir dans cette guerre pour laquelle ils ont été choisis, alors on va essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas de raison qui les inciterait à ne pas vraiment s'investir. Ça veut dire que si quelqu'un vient de se marier, ou enfin vient de se fiancer, et il n'a pas encore consommé le mariage, on lui dit rentre chez toi, occupe-toi de ta femme. Il vient d'acheter une maison, il n'a pas encore, rentre chez toi, occupe ta maison. Il vient de planter une vigne, il rentre chez toi, et profite de ta vie. Et donc, les soldats en question, c'est des gens, a priori, des gens très très sérieux, des gens qu'on a triés sur le volet, et c'est des gens qui, bon, c'est quasiment des tzadikim. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? Voilà. Globalement, en plus, le peuple d'Israël, il a mérité de gagner la guerre, en fait. Et il a mérité de faire des prisonniers. Dans les prisonniers, il y avait une prisonnière, une très belle prisonnière. Et un des soldats, il a vu la très belle prisonnière. Vechashak taba, et il l'a désiré. Donc, en fait, dans les conduites en général dans la guerre, c'est que les soldats, ils prennent les femmes de l'ennemi et puis ils les violent ou ils les emportent. Non. Alors là, la Torah lui dit « Lakarta lecha leisha » Tu voudras la prendre, alors je te permets de la prendre comme épouse. Et je ne te permets pas du tout d'avoir de la violer et puis ensuite de la renvoyer. Je te permets de la prendre comme épouse. Alors, en fait, il y a une machloket rishonim. Est-ce que on lui permet de la prendre comme épouse, mais il a avec elle immédiatement un premier rapport, mais ensuite il l'amène chez lui à la maison? Ou alors il n'a même pas le droit d'avoir un premier rapport, il a seulement le droit de la prendre et de l'amener chez lui à la maison. Il l'amène à la maison, et tor betecha, et alors elle va procéder à une dégradation. On va lui demander de se présenter de façon pas très appétissante, en quelque sorte, pas très agréable. Elle va devoir se raser la tête, elle va devoir se laisser pousser les ongles. Et puis, comme ces femmes qui étaient amenées, qui étaient là sur le terrain de la guerre, en général, c'était des femmes qui étaient très, très bien habillées, très, très, parce que leur travail, c'était éventuellement de séduire les soldats et donc d'affaiblir le camp inverse. Donc, elle avait de très beaux habits. Maintenant, évidemment, elle va enlever ces habits-là, elle va mettre des habits moins beaux. Elle sera là, dans ta maison. Elle va pleurer son père et sa mère, faire le deuil quasiment de son père et de sa mère. Tout ça pendant un mois. Et ensuite, tu pourras avoir un rapport avec elle et en faire ton épouse. Maintenant, si tu ne veux pas, si maintenant, après un mois, tu l'as vu sous un mauvais jour, quoi, tu décides que non, finalement, tu peux m'en passer, alors tu n'auras pas le droit de la vendre comme esclave. Tu devras la libérer. Donc, c'est extrêmement difficile à comprendre. Ces gens sont des tzadikim. Et qu'est-ce que ça veut dire? Tout à coup, est-ce que s'il avait dit au contraire, s'il avait dit, ah, c'est extraordinaire, ici, il y a des, je ne sais pas, il y a un super vin qui sert aussi aux libations des idolâtres, il y a une viande délicieuse, etc., qui a une très très bonne réputation, etc. J'en ai une très forte envie. Alors, la vérité, c'est que sur certains points, au moment de la guerre, sur la guerre, il y a des permissions de manger de la nourriture pas très chère. Mais on est après. D'accord? Il est après maintenant. Ils ont gagné la guerre et maintenant alors est-ce que si maintenant il dit je veux manger cette nourriture interdite, on ne le permettra évidemment pas. Pourquoi on lui permet tout à coup de prendre cette femme, une étrangère a priori? Et vous remarquerez qu'il n'est jamais dit dans le texte ici qu'il l'a convertie, qu'on ne parle pas de conversion. On ne parle pas de guillot. Donc, il la prendra comme épouse. Comment il peut la prendre comme épouse? Il faut imaginer qu'on va la contraindre à se convertir. Comme on le fait, c'est la seule conversion qui est sous la contrainte, c'est la conversion des esclaves. Quand on achète un esclave, si vous allez en Arabie Saoudite, et vous achetez un esclave, vous le ramenez chez vous, vous devez l'obliger à se convertir. Si vous n'arrivez pas à l'obliger, vous devez le revendre. Parce que certains donnent ça comme explication, étant donné que l'esclave, tu le prends complètement en charge. Tu vas travailler pour toi, mais tu le prends en charge. Tu vas le nourrir, tu vas le blanchir, etc. Enfin, bien, on ne peut pas prendre quelqu'un en charge si on ne prend pas spirituellement aussi en charge. Donc, le prendre spirituellement en charge, c'est le convertir. Si on ne peut pas le convertir, il faut le renvoyer. Donc, probablement qu'on va la contraindre ici aussi à se convertir, parce que sinon, comment on peut penser qu'elle sera son épouse? On ne peut pas épouser. Il y a après Matan Torah ici. On ne peut pas épouser une juive. Il n'y a pas de kiddushin possible, il n'y a pas de mariage possible. Alors, voilà, tout à coup, on va lui permettre, ça veut dire quoi? Donc, quelqu'un, parce qu'il a un désir, un fort désir, la va choisir, va changer, cette femme est interdite. On dit, ah non, j'en ai absolument envie. La désire très fortement. Alors, ok, la Torah dit, ok. Comme dit Rashi, Dibra Torah, Keneged, Ayetserara. La Torah, elle parle ici, Keneged, Yetserara. Sheim, Eina Kadosh Baruchu Matira, si Hachem ne le lui permet pas, Issa Eina Bissou. Tu vas l'épouser, Bissou. Tu vas l'épouser. Aval im nasa, mais en même temps tout de suite, Rashi ramène que s'il l'épouse, sofo liot sona. Finalement, il va la haïr. Et c'est le deuxième paragraphe ici dont on parle, de quelqu'un qui a deux femmes. Et l'une d'entre elles est réputée aimée, elle est vraiment aimée, et l'autre est haïe. Yena le Ish, etc. Et puis, elle va même avoir un enfant qui va être Ben Sorer ou Moré, qui est le troisième paragraphe en question dont on va tout de suite parler. Alors, ce qui se passe ici, on va faire, c'est quelque chose d'absolument incompréhensible. On va permettre quelque chose parce que la personne le veut fortement. Parce que si on ne lui permet pas, il va le faire béisso. Alors, là, tu ne me permets pas de manger cette viande-là, je la mange quand même. On va lui permettre parce que sinon, il la mange quand même. C'est quoi cette histoire? Tout à fait incompréhensible. Alors, ça vient dire que tu ne peux la prendre qu'en l'épousant. Donc, ça veut dire qu'on va céder. Qu'est-ce qu'on va céder? On va dire que tu peux la prendre en l'épousant. Rashi et le Ramban disent que c'est ça que ça vient dire. Tu peux appliquer seulement la procédure et tu pourras l'épouser après un mois, même si elle n'est pas d'accord. Là, tu pourras en faire ton papa. Et on va dire qu'il va attendre parce qu'il sait que dans un mois, elle sera permise. Et au lieu de lui dire c'est complètement interdit, il ne supporte pas, on va lui dire dans un mois, elle sera permise. Alors attends un mois. Exactement comme on attend, quand une femme est nida, etc., on attend, c'est pas un mois, mais des fois ça peut être assez longtemps, par exemple, à la suite d'une naissance, comme ça, ça peut prendre beaucoup de temps. On attend, on sait que ça sera permis plus tard. Mais ici, donc, on le lui permet, mais sans qu'on lui dise quoi que ce soit. Le fait que la Torah juxtapose le paragraphe de l'histoire de quelqu'un qui a deux femmes. Alors, en vérité, c'est un problème parce que on n'a pas, le texte dit qu'il y en a une qui est Ahuva, aimée, et une qui est Snoua. Alors là, c'est difficile parce qu'on n'a pas le droit de haïr qui que ce soit, même dans son cœur. Donc, ça veut dire qu'il y en a une qui se noie. Alors, on explique en général qu'elle n'est pas vraiment haïe, mais elle se croit, elle ressent qu'elle est haïe par comparaison avec la façon dont il traite l'autre femme. Traite l'autre femme, manifestation d'amour, etc. Et à son égard, il n'y a pas ces manifestations-là. Alors, c'est ça que la Torah appelle haïe. Elle se sent haïe. Pardon? Oui, oui, c'est ça. C'est la même chose. Et donc, elle se sent... Alors, ce paragraphe, a priori, il n'a rien à voir avec le paragraphe précédent. C'est une façon générale. Qu'est-ce qu'on vient dire? On vient dire la chose suivante. Il y a une règle qui est que l'aîné, l'héritier de... dans les héritiers d'un homme, le fils aîné, il prend une double part. Il a une double part. La double part, on peut expliquer qu'il a une double part parce qu'il va devoir jouer un rôle de second père, d'une certaine manière. On avait déjà expliqué, c'est quelqu'un qui va devoir traduire l'enseignement du père dans le langage de la nouvelle génération. Donc, il est un deuxième père, c'est pour ça qu'il est, il a une double part et c'est aussi pour ça que le mot qui veut dire aîné, il se dit 222, c'est le Bet Kaferesh, et toutes les trois sont des lettres qui veulent dire deux, deux dans les unités, deux dans les dizaines et deux dans les centaines. Donc c'est paradoxal de dire que le premier né, ils appellent 222. Mais c'est parce que être le premier né, c'est jouer le rôle du deuxième père. Et donc voilà. Ce bonhomme, il a deux femmes. elles toutes les deux accouchent. Et celle qui est réputée Snoua, elle accouche avant l'autre. Elles ont toutes les deux un fils. Donc, l'aîné de cet homme-là, c'est le fils de la femme Haï. Donc, lui, ce dit la Torah, toi, tu auras certainement envie de donner au fils de la fille, de la femme aimée le rôle de fils aîné, le statut et les privilèges, les obligations, mais aussi la fameuse double part au fils de la femme aînée. La Torah dit, tu n'en as pas le droit, tu es obligé de donner au fils de la femme Haï, parce que c'est lui le vrai Bechor, le premier né. C'est donc, voilà, tu seras obligé de le reconnaître comme tel. Alors, c'est ce que Rashi a dit. Ici, dans ce paragraphe, on parle d'une situation absolument générale. Alors, Rashi dit, c'est qui la femme Haï? Ben, c'est la femme qui l'a ramenée là de la guerre. Parce que cette femme-là, son intérêt, c'était qu'elle était très belle. Il la désirait parce qu'elle était belle. Mais si ça se trouve, c'est une cruche parfaite. Il n'y a rien à dire, elle a aucune vraie personnalité, etc. C'est tout. Elle est belle. Et un appât pour les soldats, c'est tout. Alors finalement, il risque de la haïr, par rapport, en tout cas par rapport à la femme avec laquelle il s'était marié et avec laquelle, donc, il n'y a pas si longtemps que ça, puisque c'est le premier enfant, en théorie, disons, de cette femme aimée aussi. Donc, c'est un jeune marié, ce type-là. Mais il ne fait pas partie des gens qui n'ont pas encore consommé le mariage. Donc, c'est pour ça qu'il est resté à la guerre. Alors, Rachid dit, on va mettre ça en scène. On va dire que la femme Haï, dans le deuxième paragraphe, c'est la captive. Et alors, on continue. Il y a un troisième paragraphe qui parle de quelqu'un, un homme marié, il a une femme, et il a un fils dévoyé et rebelle, qui n'écoute pas la voix de son père et la voix de sa mère. Donc, personne n'arrive à lui faire entendre raison. Alors, il le corrige, il essaie de le corriger, mais bon, bien sûr, lui, il ne les écoute pas. Alors, le père et la mère le prennent. Il s'agit d'un enfant qui est juste avant la bar mitzvah. Il l'amène au tribunal. Le tribunal, il siège en général à la porte de la ville. Le tribunal, il est en charge de veiller, surveiller qu'est-ce qui entre dans la ville et qu'est-ce qui en sort. Alors, ils viennent et ils disent, notre fils, que voici, est dévoyé et rebelle, il n'écoute pas notre voix, il est glouton et buveur. C'est-à-dire, en fait, il mange et il boit. Alors, voilà, c'est quoi son problème? Le problème, c'est que cet enfant, le jeune homme, là, il vole dans le porte-monnaie de papa et maman, et il va s'acheter un hot dog, je ne sais pas quoi, et un verre de vin, une bouteille de vin. La Gemara, elle décrit la quantité de viande et de vin, c'est ridicule, enfin, c'est pas grand-chose. Hein. Ils ont traduit glouton parce qu'effectivement, c'est formulé de cette manière-là, mais ça n'a rien à voir. Pas vraiment un glouton tel qu'on le représente, un peu de caricature qui se respecte. En tout cas, voilà, il fait ça. Et bon. Eux, ils ont essayé de raisonner, d'arrêter de, qu'il arrête de voler, etc. Ça marche pas. Alors, une fois au tribunal, une deuxième fois au tribunal, il est condamné à mort. Alors, je vous rassure tout de suite, ça n'a jamais existé, ça n'existera jamais. Mais que, alors, on dit tous les hommes de la ville le lapideront, et il mourra. Et on explique que pourquoi on le tue, mais qu'il n'a rien fait pour l'instant. On le tue parce que, en fait, on parle ici du problème de l'addiction. On pense que cet enfant, il va s'habituer à avoir sa dose de viande et de vin quotidienne. Et ça marchera très bien tant qu'il pourra piquer dans le porte-monnaie des parents. Mais un jour, il aura peut-être ou bien plus de parents, ou ils n'auront pas d'argent, ou il... Bref, il ne pourra pas piquer l'argent. Il n'a pas d'argent, il n'a pas ce qu'il va faire. Il va agresser les gens dans la rue, il va attaquer les diligences. Quoi. Il va, le cas échéant, il va tuer les gens pour leur prendre de l'argent. C'est-à-dire la situation classique du type qui, dans la rue, ça à New York, je sais pas quoi, Chicago, type qui tue quelqu'un parce que pour lui prendre un dollar, parce que ça. Vous achetez un dollar de cam. C'est l'addiction. Donc, on dit, vaut mieux qu'il meure en état d'innocence plutôt qu'il meure en tant qu'assassin. Donc, ça, tout ça, c'est un grand problème, effectivement. Parce que c'est... Alors, si ça n'a jamais existé, ça n'existera jamais, alors il se pose toujours la question, alors pourquoi on nous raconte ça? Alors, d'abord, si on suit Rashi, ce qui va se passer, c'est que cette femme qui est haïe, son fils, là, même si c'est peut-être même le premier-né, mais il est dévoyé, il n'écoute pas ni son père ni sa mère. Alors, la Gemara, elle discute le fait que quand c'est marqué, il n'écoute pas ni son père ni sa mère, etc. Et d'un côté, il n'écoute pas notre voix au pluriel. Alors là, on discute et on dit là-bas, hein, à Mara, que le père et la mère, ils tiennent non seulement exactement le même discours, mais en plus ils ont, et c'est ce qui fait que ça n'existe pas, ils ont le même, ils ont la même voix, le même ton de voix. Donc le fils, quand il entend une voix, il ne peut pas savoir si c'est son père et sa mère. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a un principe d'éducation fondamental qui est que le père et la mère, dans l'éducation, ils doivent jouer des rôles différents. Dans l'éducation, il faut qu'il y ait le fameux « smol docha v'yemin mekarev ». Si la main gauche, elle repousse, il faut que la droite rapproche. Mais il ne s'agit pas que un des conjoints dit quelque chose et l'autre dit exactement le contraire. Ça. Mais il faut que l'un formule les choses de telle sorte que ça laisse une porte de sortie à l'enfant. Il est pas, sinon, il a un mur. Et s'il a un mur, il ne peut que se révolter. C'est un problème japonais qui dit qu'effectivement, quand tu vas contre quelqu'un, et tu l'as, s'il est dos au mur, il faut lui laisser, place-toi de telle sorte qu'il voit qu'il pourrait s'enfuir. Comme ça, il va s'enfuir. Parce que sinon, s'il est coincé, il va se battre à mort et tu ne sais pas quelle énergie il est capable de mobiliser contre toi. Bon, c'est un problème japonais. La Torah, elle dit la même chose ici. Si le père et la mère sont une seule voix, il est perdu. Donc, évidemment que quand la Torah nous enseigne quelque chose qui ne se réalisera jamais, c'est qu'elle enseigne des principes, et c'est comme une espèce de construction artificielle où on a mis plusieurs cas, de telle sorte qu'on apprenne dans ce cas-là toutes sortes de lois. Alors, on apprend effectivement plutôt Smol Dorfa Mimine Mekarevet. Et en fait, on apprend aussi que l'éducation, ça ne consiste pas à amener le gosse au tribunal. Il faut trouver quelque chose. Mais à part ça, ce qui est étonnant, c'est que le tribunal se prononce sur un truc pareil et qu'ils ne prennent pas le père et la mère par les oreilles et qu'ils leur disent d'aller suivre un cours rapide d'éducation. Vous viendrez. Ça ne semble à rien, cette affaire. Donc, effectivement, après, il faut se demander pourquoi un gosse a besoin d'aller acheter de la viande et du vin. C'est pas qu'il allait s'acheter des chewing-gums, il va s'acheter de la viande et du vin. Ben, quel gosse va s'acheter de la viande et du vin? C'est un problème. Ce que j'ai dit, c'est que pendant la guerre, on permet aux soldats qui n'ont pas de provisions, qu'est-ce qu'ils vont, ils ne peuvent pas se battre s'ils n'ont pas, ils ne mangent pas. Ils peuvent manger sur l'habitant, se payer sur. Et donc, le cas échéant, c'est la nourriture par obligation de l'agir. Mais c'est en période de guerre, pas après. Ça, je sais pas, ça me semble un peu compliqué. Mais ça, ça concerne les soldats, ça concerne quelqu'un qui est en guerre. Il est là, ils sont à 100 km de toute possibilité de manger quelque chose de cachère. Et il faut toute l'énergie pour se battre. Ils risquent leur peau, etc. Donc, il y a des dynimes particuliers du soldat. Le père et la mère ont exactement la même voix et le même timbre, ça n'existe pas. Mais même si c'est deux hommes ou deux femmes qui éduquent cet enfant, ils n'auront pas la même voix. Il n'y a pas deux personnes qui ont la même voix, les mêmes intonations. Il y a des choses qui ressemblent beaucoup, mais ce n'est pas la même chose. Pardon? C'est possible, mais ça ne correspond pas. La Gemara, elle parle de Mamash. C'est exactement la même chose. Mais exactement la même voix. Elle dit que ça, ce n'est pas possible. Et en fait, ce qu'on peut dire, c'est que qu'est-ce que c'est que cette histoire de père et la mère qui ont la même voix? Si on dit que la mère en question, c'est la captive, alors la captive, elle n'a rien à dire. Elle est la mère, mais on ne lui a rien demandé. Elle n'était même pas d'accord de se marier. On l'a obligée. On lui a fait un enfant. Et donc, elle n'a pas le même timbre de voix, mais modulo ce point-là, il n'y a qu'une seule parole, parce qu'elle va dire comme le père, parce qu'elle est une captive, même si ensuite elle est devenue sa femme, son statut, mais elle n'est personne dans la maison. Donc, on comprend bien que si on met en scène justement cette histoire, de cette manière-là, comme Rachid a dit, on comprend bien que la femme en question, elle ne dit que la même chose que ce que dit le mari. Elle ne peut pas jouer ce rôle de Imine Mekarevet par rapport à son mari, dans la mesure où Elle est seulement une captive qui a été. On l'a gardée dans la maison, mais bon, elle va avoir un statut secondaire. Donc, on nous dit, la Torah dit, donc c'est la chose, on va céder au désir du bonhomme, mais en fait, sans qu'on le lui dise, mais si on apprend, s'il étudie la Torah, il verra qu'en vérité, ça va donner un désastre, ça veut dire ça va déséquilibrer son foyer, ça va produire un enfant rebelle, etc. Et ça ne leur permettra pas vraiment de construire, ne peut pas vraiment devenir sa femme. Ce n'est pas possible. Ça veut dire si on prend une femme uniquement pour sa beauté, alors on peut se retrouver. Alors, est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce qu'on n'a pas le droit d'épouser une femme pour sa beauté, simplement? La Gemara, elle dit que à Yom Kippour et à Tou B'Av, les jeunes filles, elles allaient danser dans les vignes. Elles interpellaient les garçons. On disait, selon qu'elles étaient belles, riches ou intelligentes ou rien du tout, elles disaient, prends-moi pour ma beauté, prends-moi pour mon argent, prends-moi pour mon intelligence, prends-moi pour faire une mitzvah. Donc, il y en avait qui disaient, prends-moi pour ma beauté. Donc, que pour la beauté, parce que c'est un bon conseil. Et peut-être c'est une façon de dire... Je suis belle, mais je ne suis pas seulement belle. Je peux peut-être t'accrocher grâce à ma beauté, puis ensuite tu vas voir que j'ai quelque chose à vendre aussi, et pas simplement une beauté pour laquelle je n'ai rien fait. Donc c'est possible qu'effectivement, il y a aussi cette leçon que si c'est simplement un désir à cause de la beauté, il faut s'en méfier, ce n'est probablement pas du tout un bon choix. Voilà. Ensuite, il y a un passage qui dit, bon, chapitre 23, là, dans Gimel, un passage qui dit Lo yavo amoni ou moavi vikal Hashem, gabdo asiri, lo yavo laem vikal Hashem adolam, al asher, al davar. Asher lo kidmu etchem balechem v'maim, der betzetchem mitzrayim, asher sachar alecha et bilam ben beor mito aram naraim lekal leka, velo et Hashem t'a sauvé, etc. Mais par contre, l'Edomi et l'Égyptien, au bout de trois générations, tu les accepteras. La Torah, elle dit, on parle de conversion. Et on dit ici que les descendants du peuple Ammon ou du peuple Moab, donc je vous rappelle, Ammon et Moab, ce sont les deux enfants que Lot a eus dans des relations incestueuses avec ses filles, des relations incestueuses, mais c'est des relations qui ont eu lieu parce que les filles pensaient qu'elles étaient les seules survivantes de l'humanité et qu'elles se sont senties obligées d'assurer la pérennité de l'espèce. Elles vivaient dans cette pays de Sdom, Amora, après la destruction, donc ça devait être complètement un désert. Hiroshima ou Nagasaki, quoi. Alors, ces filles-là, c'est de la famille, hein. Parce que Lot, c'est le beau-frère d'Abraham, c'est aussi le frère de Sarah, c'est aussi le neveu d'Abraham, Donc, elles sont un peu de la famille. Et on dit, eux, tu ne les accepteras jamais. On n'accepte pas. Pourquoi ? Parce que quand tu es sorti d'Égypte, tu étais quasiment dans le désert, il y a un principe général, une espèce de solidarité du désert, qui fait que les tribus qui ont l'habitude de vivre dans le désert, quand il y a une caravane ou des gens qui sont un peu paumés, qui sont dans le désert, on vient à leur rencontre et on leur offre un peu de pain et un peu d'eau. C'est à la fois quelque chose ou à la fois du symbole. Quelque part, on vient à leur rencontre et on fait preuve d'une forme d'hospitalité en quelque sorte. Et eux ne l'ont pas fait. Ils ont même fait par la suite le contraire. Donc ça les disqualifie. C'est-à-dire on ne peut pas accepter dans le clan d'Israël des gens qui appartiennent à un peuple qui était capable de faire une chose pareille. C'est en dessous de l'humanité, c'est le principe en question de l'hospitalité dans le désert, c'est un principe fondamental que tout le monde applique. Donc c'est quasiment inhumain ce qu'ils ont fait. Des inhumains, on n'a pas besoin d'eux. Alors, en fait, dans ces deux peuples, il y a deux femmes, une femme dans chacun de ces peuples, qui vont jouer un rôle très important, dont Hachem dit, voilà, on va le dire en français, il y a deux perles ici dans ces peuples, qui justifient que ces peuples existent en quelque sorte. Alors la plus connue des deux, c'est Ruth. Ruth, c'est une princesse de Moab. Donc a priori, princesse de Moab, on ne peut pas l'accepter dans le clan d'Israël. Elle peut pas se convertir. Vous savez bien que Ruth est le modèle de la femme qui se convertit. On connaît toute l'histoire, ce qu'elle a dit à Naomi, etc. Et on sait bien qu'à terme, Ruth va être l'ancêtre de David, donc l'ancêtre du Mashiach. Excusez du peu. Alors, comment ça se passe ? Il y a eu une discussion à cette époque, justement, où on a dit que finalement, cette histoire de venir à la rencontre de gens qui sont dans le désert et de leur offrir le pain et l'eau, c'est qui est-ce qui doit faire ça ? Qui est-ce qui va à la rencontre d'un peuple ? Ce sont les hommes. Les femmes, elles ne vont pas rencontrer. Les femmes, elles sont derrière. Et donc, ceux qui ont manifesté cette conduite inacceptable, ce sont les hommes. Et donc, on a décidé, le Beit Din a décidé, que bien que dans le pasouk, c'est marqué « Lo yavo amoni ou moavi » et que ça inclut évidemment dans le pasouk, ça inclut les femmes aussi, mais le Beit Din, à l'époque de Ruth, de Boaz, etc., le Beit Din a décidé que ce ne sont que les hommes qui sont exclus, mais qu'on va accepter la conversion des femmes. Parce qu'elles n'ont pas manifesté cette inhumanité, en quelque sorte. Mais c'est pour ça qu'on a accepté la conversion de Ruth, mais comme vous savez, on a continué d'embêter David. Ses ennemis n'ont pas arrêté de l'accuser en fait, d'être un usurpateur, qu'il ne pouvait pas être roi puisqu'il n'était même pas juif, etc. On a eu beaucoup de tsarot avec ça. Alors bon, on ne les accepte pas. On a compris, c'est un principe. Juste après, qu'est-ce qui est dit ? On parle du Mitzri, on parle des Edomi aussi, mais disons, je vais m'arrêter sur le Mitzri. On dit, voilà, un Égyptien qui veut se convertir. Ou une Égyptienne. de se convertir. Alors, on va dire, voilà, tu veux te convertir. Alors, tu peux commencer par épouser une autre Égyptienne qui, elle aussi, veut se convertir. Donc, l'enfant que vous allez avoir, c'est un Égyptien de deuxième génération. Et lui, il va épouser une fille de deuxième génération et leur enfant, il sera un Égyptien de troisième génération. Et cet Égyptien-là de troisième génération, il va pouvoir se convertir complètement et épouser qui il veut dans le clan d'Israël. Ça veut dire l'Égyptien, on l'accepte. Bon, il y a une période de probation, on attend un moment, mais on l'accepte ultimement. Pourquoi ? Alors certains disent, ben, parce que finalement, on a habité chez eux, ils nous ont offert l'hospitalité. C'est vrai qu'après, ça a mal tourné, ils nous ont réduits en esclavage, mais quand Yaakov descend en Égypte, etc., il vient parce qu'il y a la famine, etc., et on leur doit quelque chose. Ça veut dire, si vous voulez, que le clan Israël, il doit accepter des convertis allemands, polonais, etc., parce que dans tous ces pays-là, on a été, à un moment donné, bien accueillis. Alors, bon, c'est comme ça, c'est vrai qu'on accepte, c'est connu aujourd'hui, il y a les descendants de Goebbels ou de Göring, je ne me rappelle plus, un des deux, qui sont convertis, qui sont en Israël. Pardon ? Ça, c'était pour les Égyptiens. Pour les autres, on a accepté tel quel. Les Égyptiens, c'était tellement grave qu'on a dit trois générations. Mais les autres, on accepte. Bon, à part le fait qu'aujourd'hui, il y a un principe général que quand Sanhérib, l'Assyrien, il a conquis le monde quasiment, celui qui a exilé les 10 tribus qui ont disparu, et on dit « Ubilbel et Taolam », ça veut dire que la technique assyrienne, c'était que quand il conquérait un pays, ils déportaient les gens de ce pays dans un autre pays où ils avaient conquis et ils faisaient transfert de population. Parce que si on transfère les populations de cette manière-là, les gens ils peuvent pas résister, ils connaissent rien du pays en question. Ils connaissent pas les chemins, ils connaissent pas les sources, ils connaissent rien. Donc ils peuvent pas vraiment se révolter. Donc on peut vraiment les mater. Voilà donc... oui, alors du coup, on dit que Ubilbel est à Olam, et donc plus Rome n'est plus dans Rome, quoi. C'est-à-dire en fait, plus aucun peuple n'est à sa place. Donc, par exemple, on aura un petit problème. Comment on saura qui est Amalek? Alors, Amalek, c'est probablement Eliyahu Navi qui devra nous dire qui est Amalek. Parce que d'abord, premièrement, surtout si on dit comme le Gaon de dit qu'il y a de l'Amalek dans Israël. Bon, après qu'on ait dit qu'Amalek, en vérité, c'est un petit cousin, alors on est moins surpris. Un petit cousin, c'est quelqu'un de la famille. Alors, dans la famille, dans les Juifs, il doit y avoir des gens qui se conduisent de façon Amalek. Aujourd'hui, c'est quand on entend ce qui se raconte, ce qui se dit, on n'a pas de mal à comprendre que il y a des gens dont on peut, des juifs dont on peut vraiment se demander qu'est-ce qu'ils ont de juifs encore. Donc voilà donc pour cette chose qui est très importante, c'est-à-dire qu'on accepte. L'acceptation, elle se base vraisemblablement sur un principe qui est un principe de gratitude, en fait. Si on ne l'acceptait pas, on pourrait nous accuser d'ingratitude. Vous avez été sauvés à ce moment-là et voilà comment vous nous traitez.
Cette gratitude,
Ben c'est ça, qu'est-ce que je me suis dit, ben, la gratitude, c'est eux, ils nous ont acceptés chez eux, donc il a Keneged Midan, nous on les accepte chez nous. C'est les gens qui veulent venir, c'est pas qu'on va prendre un Polonais, on va dire t'es juif. Voilà, on va s'arrêter là.